Avant de reprendre la lecture de cette Bible Maya, de ce Popol Vuh, j'aimerais juste vous parler un peu de son organisation, de sa découpe. On a affaire à trois parties. Même si on a l'impression d'un certain désordre lorsqu'on le connaît en entier, il y a trois parties tout à fait distinctes. La première, vous la connaissez déjà un peu, c'est celle qui concerne la Genèse, qui concerne la création du monde, des animaux, et enfin, cette dernière création en trois fois, création de l'homme de glaise, de celui fait à partir de bois, ces mannequins de bois, et pour terminer, la création de l'homme de maïs, que je vais vous lire tout à l'heure. À travers cette genèse, on remarque qu'on peut ainsi énumérer toutes les grandes divinités, les divinités de base, les divinités primordiales, et également se rendre compte à quel point, tout au bout de la chaîne, il y a ce maïs qui est vraiment la plante civilisatrice par excellence, ce maïs qui est une graine qui a véritablement permis la civilisation. Ensuite, on a affaire à une véritable guerre. Une guerre entre deux héros civilisateurs, Wanapu et Xbalanque, contre de faux dieux. Des dieux qui sont remis en place, qui sont rejetés dans ce Xibalbai, cet enfer souterrain. Donc on a aussi l'impression d'une remise en place sur le plan de la civilisation, une remise en place sur le plan religieux. En dernière partie, eh bien, on a affaire qu'à des actes historiques. On va pouvoir suivre la généalogie, on va suivre l'histoire de ce peuple Maya Quiché, ses pérégrinations de tribus vagabondes, un peu comme pour les Aztèques. On va étudier les Quiché, les Kachikel, les Tzotzil. Il y aura de nombreuses énumérations de tribus. On va parler des rois, on va parler de la classe sacerdotale dans cet état Quiché. Donc, une chose qui, sur le plan historique, reste intéressante, même si elle est encore assez vague, un peu mélangée. En tout cas, à l'intérieur, on va remarquer aussi, dans ce dernier passage, une idée plus mythique. On va d'abord découvrir la création du feu, l'invention du sacrifice humain. On va encore ajouter des faits historiques secondaires sur les guerres entre les tribus, les fondations des différentes villes du royaume Quiché. Alors, même si sur le plan historique et politique, on n'est pas tout à fait au clair, on remarque quand même que ce Popol Vuh, dans ses trois parties, a été d'un apport extrêmement précieux pour les archéologues, tout d'abord, et même aujourd'hui, pour les ethnographes, les ethnologues qui travaillent encore sur ces tribus guatémaltèques ou même sur ces tribus mayas du sud du Mexique. Voici le commencement de quand on tint conseil sur l'homme, quand on chercha ce qui entrerait dans la chair de l'homme. Les nommés enfanteurs, engendreurs, constructeurs, formateurs, dominateurs, puissants du ciel parlèrent ainsi. Déjà l'aube se répand, la construction s'achève. Voilà que devient visible le soutien, le nourricier, l'enfant de l'aube, l'engendré de l'aube. Voilà qu'on voit l'homme, l'humanité à la surface de la terre, ainsi dirent-ils. Ils s'assemblèrent, ils arrivèrent, vinrent tenir conseil dans les ténèbres, dans la nuit. Alors, ici, ils cherchèrent, discutèrent, méditèrent, délibérèrent. Ainsi, ils vinrent tenir conseil sur l'apparition de l'aube, ils atteignirent, ils trouvèrent ce qui devait entrer dans la chair de l'homme. Or, peu s'en fallait pour que se manifestassent le soleil, la lune, les étoiles, au-dessus, les constructeurs, les formateurs. En maison sur pyramide, en demeure des poissons ainsi nommés, venaient les jaunes épis, les blancs épis. Voici les noms des animaux qui apportèrent la nourriture. Renard, coyote, perruche, corbeau, les quatre animaux annonciateurs de la nouvelle des jaunes épis, des blancs épis, venus en maison sur pyramide et du chemin des maisons sur pyramide. Voici qu'on atteignait enfin la substance qui devait entrer dans la chair de l'homme construit, de l'homme formé. Ceci fut son sang, ceci devint le sang de l'homme, cet épi entra enfin dans l'homme par les enfanteurs, les engendreurs. On se réjouit donc d'avoir atteint le pays excellent, rempli de choses savoureuses. Beaucoup de jaunes épis, beaucoup de cacao sous forme de monnaie, de cacao raffiné, innombrables les apotis rouges, les anones, les fruits, les haricots, les apotis matasanos, le miel sylvestre, plein d'exquis aliments dans cette cité nommée Maison sur Pyramide, près de la demeure des poissons. des substances de toutes sortes, petites substances, grandes substances, petites semailles, grandes semailles, fut montré le chemin par les animaux. Alors furent moulus le jaune maïs, le blanc maïs, et antique cacheuse fit neuf boissons. La nourriture s'introduisit dans la chair, fit naître l'embonpoint, la graisse, devint l'essence des bras, les muscles de l'homme. Ainsi firent les enfanteurs, les engendreurs, les dominateurs, les puissants du ciel, comme on dit. Aussitôt fut la parole de construction, de formation de nos premières mères, premiers pères. Seulement de jaunes épis, de blancs épis leur chair, seule alimentation des jambes, des bras de l'homme, tels furent nos premiers pères, furent les quatre hommes construits, cette unique nourriture dans leur chair. Tout à l'heure, je vous parlais des trois parties du Popol Vuh. Nous allons étudier la seconde, qui en fait se situe juste avant la création de l'homme de maïs que je viens de vous lire. Cette seconde partie, elle parle de deux héros civilisateurs, de celui qu'on appelle Petit Sorcier et de celui qu'on appelle Maître Magicien, c'est-à-dire Wanapu et Xbalanque. Ce sont les personnages principaux. D'après cette histoire, on sait que leurs parents sont morts en enfer, dans le Xibalbai, en allant jouer à la pelote contre ces dieux des enfers. On apprend aussi qu'ils ont réussi à se débarrasser de leurs aînés en les transformant en singes. On apprend également qu'ils vont réussir à faire périr un dieu, un faux dieu, qui se nomme Principalara et qui s'était targué d'être en fait à la fois le soleil et la lune. Ils vont poursuivre leurs travaux, ils vont détruire encore deux divinités terrestres et ils vont même anéantir les chefs du Xibalbai, de cet enfer souterrain où étaient morts leurs parents, ces dieux ténébreux supprimés. Ils vont pouvoir devenir le soleil et la lune. C'est un peu le résumé de cette histoire, une histoire fantastique, très belle, un drame de la mythologie précolombienne qui est vraiment extrêmement raffiné, enfin qui a une imagination, qui développe une imagination affolante. Et je pense que c'est l'expression aussi la plus étonnante de toute la littérature précolombienne. Or, il n'y avait alors que peu de clarté sur la face de la terre. Le jour n'était pas encore. Mais il y avait un homme qui s'enorgueillissait. Son nom était Vukub Kakix. On le nommait Set Hara. Le ciel et la terre existaient. Seulement la face du soleil et de la lune étaient voilées. Or, Vukub Kakix disait, « Véritablement, ce qui reste de ces gens qui se sont noyés est extraordinaire, et leur existence est comme celle d'êtres surnaturels. Je serai donc grand encore une fois au-dessus des êtres créés. Je suis leur soleil, je suis leur aurore et je suis leur lune, ainsi soit-il. Grande est ma splendeur, je suis celui par qui vont et marchent les hommes. Car d'argent est le globe de mes yeux qui sont resplendissants de pierres précieuses, et mes dents brillent dans leur émail comme la face du ciel. Voilà que mes narines reluisent de loin comme la lune, et d'argent est mon trône. La face de la terre se vivifie lorsque je m'avance devant mon trône. Ainsi donc, je suis le soleil, je suis la lune, à cause de la civilisation, de la félicité de mes vassaux. Ainsi soit-il, car ma vue s'étend au loin. » Ainsi parlait Vukub Kakix. Mais véritablement, ce n'était pas lui, Vukub Kakix, qui était le soleil. Seulement, il s'enorgueillissait de ses pierreries, de ses richesses. Mais en réalité, sa vue terminait où elle tombait et ses yeux ne s'étendaient pas sur le monde entier. Or, on ne voyait pas encore la face du soleil, de la lune ni des étoiles. Il ne faisait pas encore jour. Ainsi donc, Vukub Kakix se faisait superbe à l'égal du soleil et de la lune, la lumière du soleil et de la lune n'ayant pas encore commencé à briller et à se manifester. Seulement, il désirait s'agrandir et tout surpasser. Or, ce fut en ce temps que lieu l'inondation à cause des mannequins et des hommes faits de bois. Ainsi donc,
Nous raconterons maintenant quand mourut Vukubkakix, quand il fut abattu et en quel temps se fit l'homme par la main du formateur et du créateur. Voici l'origine de la défaite et de la destruction de la gloire de Vukubkakix par les deux jeunes gens, dont le premier s'appelait Wanapu, maître magicien, et le second Xbalanké, petit sorcier. Véritablement, c'étaient des dieux. À cause du mal qu'ils voyaient en celui qui s'enorgueillissait et qu'ils voulaient commettre à la face du cœur du ciel, ils dirent ces mêmes jeunes gens, « Il n'est pas bon que cela soit. L'homme ne vivant pas encore ici sur la terre, ainsi donc nous essayerons de tirer de la sarbacane sur sa nourriture, nous y tirerons et nous lui inoculerons une maladie qui mette fin à ses richesses, à ses pierreries, à ses métaux précieux, à ses émeraudes et à ses bijoux dont il s'enorgueillit. Ainsi le fera tout le monde. Ce n'est pas pour enfler sa gloire que les richesses existent. Qu'il soit donc ainsi fait, » dirent les deux jeunes gens, chacun d'eux avec sa sarbacane à l'épaule. Or, ce Vukubkakix avait deux fils, et le premier était Tsipakna, et le second était Kabrakan. Chimalmat était le nom de leur mère, l'épouse de Vukubkakix. Or donc, ce Tsipakna avait pour occupation de rouler ces grandes montagnes qu'on appelle Chigag, Wanapu, Pekul, Shakshkanul, Makamob et Ultsinab. Et c'est là le nom des montagnes qui existèrent avant le lever de l'aurore et qui en une nuit furent créées par la puissance de ce Tsipakna. De même aussi, Kabrakan remuait les montagnes par sa volonté, et les montagnes grandes et petites s'agitaient par lui. Ainsi donc, les fils de Vukubkakix s'en faisaient une cause d'orgueil. « Attention, c'est moi qui suis le soleil !» dit Vukubkakix. « C'est moi qui ai fait la terre !» dit Tsipakna. « Et c'est moi qui secoue le ciel, c'est moi qui bouleverse toute la terre !» dit Kabrakan. C'est ainsi que les fils de Vukubkakix, c'est ainsi vraiment qu'ils s'arrogeaient la grandeur à la suite de leur père. C'est donc là le mal que virent les deux jeunes gens. Mais en ce temps, notre première mère et notre premier père n'étaient pas encore créés. C'est ainsi que fut résolue leur mort, celle de Vukubkakix et de ses fils avec leur destruction par ces jeunes gens. Voici donc maintenant le récit du coup de sarbacane tiré sur Vukubkakix par les deux jeunes gens. Nous raconterons leur défaite de chacun en particulier de ces êtres qui se faisaient si superbes. Ce même Vukubkakix avait un grand arbre, de ceux qu'on appelle Nansé. Et c'était là la nourriture de Vukubkakix, lequel venait au Nansé et montait chaque jour à la cime de l'arbre pour voir les écorces des fruits qui avaient été mangés par Wanapu et Xbalanké. De leur côté, donc, épiant Vukubkakix au pied de l'arbre, les deux jeunes gens venaient se cacher dans le feuillage tandis que Vukubkakix arrivait pour se jeter sur les Nansés qui faisaient sa nourriture. Ensuite, il fut frappé d'un coup de sarbacane de la main de Wanapu qui lui tira la balle de la sarbacane dans la joue. Il poussa aussitôt de grands cris en venant tomber de la cime de l'arbre à terre. Wanapu s'empressa donc après lui et courut promptement afin de s'emparer de lui. Mais Wanapu se laissa saisir d'un bras par Vukubkakix qui aussitôt le secoua et lui arracha avec violence ce même bras à l'extrémité de l'épaule. Mais alors, Wanapu laissa alors Vukubkakix. C'est bien ainsi qu'ils firent, sans pouvoir être vaincus les premiers par Vukubkakix. Ainsi, portant le bras de Wanapu, Vukubkakix gagna sa maison où il arriva soutenant sa mâchoire. « Qu'est-il donc arrivé à votre seigneurie ?» demanda alors Chimalmat, l'épouse de Vukubkakix. Que serait-ce autre chose que ces deux méchants qui m'ont tiré de la sarbacane et démonté la mâchoire? C'est de quoi se sont ébranlées ma denture et mes dents, qui me font beaucoup souffrir. Son bras, je l'ai arraché d'abord. Je viens te l'apporter sur le feu pour qu'il demeure suspendu au-dessus du brasier jusqu'à ce qu'il le vienne en vérité reprendre, ces démons, dit Vukubkakix tandis qu'il suspendait le bras de Wanapu. Ayant tenu conseil, Wanapu et Xbalanké, ils en parlèrent avec un vieillard. Et véritablement, la chevelure de ce vieillard était toute blanche, ainsi qu'à une vieille femme. Et cette vieille était vraiment toute courbée et pliée en deux par la vieillesse. Le grand sanglier blanc était le nom du vieillard, le grand blanc piqueur d'épines était le nom de la vieille. Or les jeunes gens leur dirent, à la vieille et au vieillard, « Veuillez nous accompagner pour aller prendre notre bras de chez Vukubkakix. Nous irons derrière vous et vous direz, ce sont nos petits-fils que nous accompagnons. Leur père et leur mère sont morts. Ainsi, ils nous suivent partout où il nous convient de leur permettre, car nous faisons le métier de tirer les vers des dents. Ainsi direz-vous. » Ensuite, Vukupkakix nous regardera comme des enfants et nous serons là pour vous donner nos conseils, dirent les deux jeunes hommes. C'est fort bien, répondirent les deux vieillards. Ensuite, ils se mirent en chemin vers l'extrémité où Vukupkakix était couché sur le devant de son trône. La vieille et le vieillard passèrent alors, les deux jeunes gens jouant derrière eux, et comme ils passaient au pied de la maison du roi, ils entendirent les cris que poussait Vukupkakix à cause de ses dents. Or, dès que Vukupkakix aperçut le vieillard et la vieille, ainsi que ceux qui les accompagnaient, « D'où venez-vous, mes anciens ?» leur dit aussitôt le roi. « Nous allons cherchant de quoi nous soutenir, ô monseigneur, » répondirent-ils. Quel est votre moyen de subsistance? Sont-ce vos enfants que vous accompagnez?
Point du tout, monseigneur, ce sont nos petits-fils. Mais voyez-vous, nous avons pitié d'eux, nous partageons et leur donnons la moitié de notre nourriture,
répondirent la vieille et le vieillard. Or le roi était à bout, à cause de la souffrance de ses dents, c'était avec effort qu'il parlait. Je vous en conjure tout de suite, ayez pitié de moi. Pouvez-vous refaire quelque chose? Oui, pouvez-vous me guérir? Ajouta le roi.
« Nous tirons simplement les vers de la mâchoire, nous guérissons les maux du globe de l'œil et nous remettons les os, ô monseigneur, » répondirent-ils.
« C'est fort bien. Guérissez donc bien vite, je vous en prie, mes dents qui me font vraiment souffrir chaque jour, car je n'ai ni repos ni sommeil à cause de cela et j'ai si mal aux yeux. Deux démons me tirèrent un coup de sarbacane pour commencer, ce qui fait que je ne mange plus. Ainsi donc, ayez pitié de moi, car tout remue dans ma bouche, mes dents et ma mâchoire. »
C'est fort bien, monseigneur. C'est un ver qui vous fait souffrir. Il suffit qu'on change votre mâchoire en ôtant les mauvaises dents de votre Altesse.
Sera-ce bien d'ôter mes dents? Car c'est ainsi seulement que je suis roi et toute ma beauté vient de mes dents et du globe de mes yeux.
Nous en mettrons aussi d'autres en échange, c'est-à-dire que des os purs et nets seront mis à leur place.
Or, ces eaux pures et nettes n'étaient autre chose que des grains de maïs blanc.
« Fort bien, tirez-les donc et venez-moi en aide, » répondit-il.
Alors on enleva les dents de Vukupkakix, mais on ne lui mit que des grains de maïs blanc en échange, et l'on vit aussitôt briller ces grains de maïs dans sa bouche. Sa splendeur aussitôt tomba, et il cessa de paraître roi. On acheva de lui enlever ses dents de pierre précieuse qui brillaient dans sa bouche. Tandis qu'on opérait les yeux de Vukupkakix, on écorcha le globe de ses yeux en achevant de lui ôter ses richesses. Mais il n'était plus en état de le sentir. Il voyait bien encore, mais ce qui faisait son orgueil avait fini par lui être enlevé entièrement par le conseil de Wanapu et de Xpalanque. Alors mourut Vukupkakix, tandis que Wanapu reprenait son bras, et ensuite mourut également Chimalmat, l'épouse de Vukupkakix. Telle fut la destruction des richesses de Vukupkakix. Or, ce fut le médecin qui lui prit les émeraudes et les pierres précieuses dont il s'enorgueillissait ici sur la terre. La vieille et le vieillard qui firent ces choses étaient des êtres merveilleux. Or, ayant repris les bras des deux jeunes gens, ils les replacèrent, et les ayant rattachés, le tout demeura bon. Uniquement pour amener la mort de Vukupkakix, ils voulurent agir ainsi, car il leur paraissait mauvais qu'il s'enorgueillît. Après cela, les deux jeunes gens se mirent en chemin, ayant exécuté de cette manière la parole du cœur du ciel.
Thank you.
pardonner le Popol Vuh, nous allons découvrir une pièce de théâtre qui a été recueillie par l'abbé Brasseur de Bourbourg, qui a vécu 2 ans, cet abbé qui a vécu 2 ans à Rabinal. Le Rabinalachi, ça signifie le guerrier de Rabinal. C'est un drame historique qui est toujours accompagné de danse, de musique. Et nous avons affaire à 5 personnages. Il y a tout d'abord le roi de Zamanib, qui est le chef de la maison de Rabinal et qui se nomme Opto, c'est-à-dire chef 5 pluies. Il y a son fils aussi, Rabinalachi, le guerrier de Rabinal. Il y a Ketcheachi, qui est le guerrier d'une autre maison, la maison de Kavek. Et enfin, 2 esclaves. Tout autour, il y a des personnages qui sont muets, qui complètent la représentation. Il y a tout d'abord la reine-mère, qui est l'épouse d'Opto. Il y a cette princesse de Karchag, qui se nomme Émeraude Précieuse, qui est l'épouse de Rabinalachi. Et enfin, 12 aigles, des guerriers aigles, et 12 de guerriers tigres. Alors le sujet, c'est en somme une querelle entre Rabinalachi et Ketcheachi, ces 2 guerriers, et c'est Rabinalachi qui va finir par vaincre Ketcheachi et le traîner comme prisonnier devant son père, le roi Opto. Celui-ci va accorder aux prisonniers différentes faveurs et ensuite on va le mettre à mort devant tout le monde. Cette mort est suivie d'une ronde, tous les acteurs prennent part à cette ronde, ce qui termine le spectacle. Nous allons juste étudier une partie de la scène 3, qui est l'avant-dernière du spectacle, scène qui se situe à l'extérieur du grand palais, ce palais de Opto, le père de Rabinalachi. Et dans cette scène, eh bien, on verra simplement Rabinalachi s'avancer devant Ketcheachi, qui est prisonnier, qui est attaché à l'extérieur. Une scène au cours de laquelle il va faire une première tirade en lui disant « Écoute, soumets-toi, pénètre dans le grand palais avec moi. » Et c'est Ketcheachi qui répond à cette première tirade. « Hola, vaillant guerrier, Rabinalachi. Est-ce ainsi que dit votre parole à la face du ciel, à la face de la terre? J'ai annoncé la nouvelle de votre présence à la face de mon seigneur, à la face de mon maître, au-dedans des grandes murailles du palais, dit votre parole. C'est pourquoi je viens. Je viens vous apporter mon message, à vous, le vaillant guerrier. Introduisez-le à ma bouche, à ma face, à la porte du grand palais. » Que je vois à sa bouche, que je vois à sa face, jusqu'à quel point c'est un brave, jusqu'à quel point c'est un héros. Allez l'avertir, qu'il ne fasse aucun bruit, qu'il ne fasse pas d'éclat, en se présentant devant ma bouche, devant ma face, qu'il s'humilie, qu'il incline la tête. Car c'est un brave. Si c'est un héros, il doit être obéissant et soumis. Car ici, il sera estimé et honoré entre les murs du grand château, de la forteresse, a dit mon seigneur et mon maître. Est-ce ainsi qu'a dit votre parole? Et quoi? Serais-je donc un brave? Serais-je donc un héros si je m'humiliais? Si je baissais la tête? Voici avec quoi je m'humilierais. Voici mon arc, voici mon bouclier. Voici ma massue toltèque et ma hache yaki. C'est là avec quoi je m'humilierais. Avec quoi je m'abaisserais en entrant par la porte de la forteresse et du grand palais. Plaise au ciel que j'abatte la grandeur et la majesté de votre seigneur, de votre père. Plaise au ciel que je frappe de mon poing ses lèvres et sa bouche au-dedans de sa grande forteresse et son grand palais. Et vous, recevez-en les premiers effets. Vous, le vaillant guerrier, Galelachi, Rabinalachi. En disant ces paroles, il s'approche en menaçant Rabinalachi. Mais intervient l'esclave favorite de Rabinalachi qui va s'interposer, c'est Ikshokmun. Vaillant guerrier, qu'avec Ketchiwinak, arrêtez, ne tuez pas ma vaillance et mon courage, le galel Rabinalachi. De ce drame qui nous démontre à quel point on était capable de créer de véritables scènes théâtrales au Guatemala, dans cette région de Rabinal, un texte qui remonte peut-être au 12e, 13e ou 14e siècle de notre ère. Nous allons maintenant passer à une autre littérature. Je vous avais annoncé également cette littérature Maya Kakchikel, ces Indiens qui vivent aux alentours du lac Atitlan.
Cette langue est très proche du maya quiché, mais ce dialecte mérite une place tout à fait à part dans cette anthologie littéraire qu'on est en train de tirer des mayas, car le cachiquel, c'est le nom d'un dialecte d'une tribu d'origine quiché, ça c'est donc de la même origine que ce que l'on vient de lire, mais également d'un ancien royaume qui était tout à fait indépendant dans le Guatemala d'avant la conquête. La capitale, c'était Izimché. Izimché qui a aussi été prise par Pedro de Alvarado. Ils avaient aussi un autre nom pour cette ville. Ils l'appelaient Tecpan Guatemala. Elle se trouve à l'est de l'actuel Sololá, donc tout près de ce lac Atitlan. Alors, ils ont été différenciés en fait des Quiché. Ils ont une histoire, des traditions culturelles qui leur sont propres. Le Popol Vuh le remarque même, puisqu'il en parle. Il parle de la divergence entre les langues, entre la mythologie des Cachiquel et celle de la région de Chichicastenango. Et on a à l'intérieur de ce Popol Vuh donc plusieurs citations concernant ces différences. Alors, c'est une branche de cette civilisation maya qui a pu nous apporter aussi des ouvrages très importants, et spécialement les annales des Cachiquel, ou ce qu'on appelle le mémorial de Sololá, cette petite ville qui surplombe ce lac merveilleux. On a retrouvé une copie de ce manuscrit qui malheureusement, l'original a été perdu. C'est une copie qui avait été élaborée au XVIIe siècle et qui est gardée aux États-Unis dans le musée de l'université de Pennsylvanie. Et c'est grâce à cette copie qu'on a pu publier ce texte. Traduite à plusieurs reprises, c'est spécifiquement Adrián Recinos qui en 1950 va pour la première fois faire connaître au monde cette chronique historique et mythologique qui raconte un peu à la même façon pratiquement que le Popol Vuh, les origines de l'homme, l'origine du monde, l'origine du peuple Cachiquel, et qui témoigne aussi des qualités littéraires tout à fait comparables à ce grand livre des Mayas Quiché qu'est le Popol Vuh. Dans votre colloque à la page 270, je vous ai mis le début de ces annales des Cachiquel. Donc je vous laisserai lire cette page et je reprendrai uniquement la dernière phrase afin de continuer un peu plus loin cette lecture. Et nous dressant sur nos pieds, nous sommes arrivés aux portes de Tula. Seule une chauve-souris gardait les portes de Tula. Et là nous fûmes engendrés et mis au monde. Là nous avons payé tribut dans l'obscurité et dans la nuit. Ô nos fils, disaient Gucumatz et Sactecao. Et n'oubliez pas le récit de nos aînés, de nos aïeux. Telles sont les paroles qui nous ont léguées. Alors on nous fit venir par nos mères, par nos pères, aux 13 villages des 7 tribus, aux 13 groupes de guerriers. Ensuite nous sommes arrivés à Tula, dans l'obscurité, dans la nuit. Alors nous avons donné le tribut quand on a porté le tribut des 7 tribus et les guerriers. Nous nous sommes placés en ordre sur le côté gauche de Tula. Là se trouvèrent les 7 tribus. Sur la partie droite de Tula se sont placés en ordre les guerriers. D'abord ont payé le tribut les 7 tribus et ensuite ont payé le tribut les guerriers. Mais celui-ci se composait uniquement de pierres précieuses, de métal, de guirlandes cousues, de plumes vertes et bleues et de peintures et de sculptures. Ils offraient des flûtes, des chansons, des calendriers rituels, des calendriers astronomiques, du patax et du cacao. Uniquement ces richesses, ils ont été versés en tribut, les guerriers à Tula durant la nuit. Uniquement des flèches et des boucliers, uniquement des boucliers en bois étaient les richesses qu'ils ont données comme tribu quand ils sont arrivés à Tula. Ensuite on a dit et demandé à nos mères, « Allez mes fils, mes filles, vos obligations seront celles-ci, les travaux que nous vous ordonnons. » Ainsi leur parla la pierre d'obsidienne. « Allez, vous verrez vos montagnes et vos vallées. Là-bas, de l'autre côté de la mer, sont vos montagnes et vos vallées, ô mes fils. Là-bas, vos visages se réjouiront. Ce sont là les cadeaux que je vous donnerai, vos richesses et votre royaume. » Ainsi fut dit aux 13 villages des 7 tribus, aux 13 divisions de guerriers. Aussitôt, on leur donna les idoles, trompeurs en bois et en pierre. Ils descendaient vers Tula et vers Xibalbay quand on leur donna les idoles de bois et de pierre, d'après ce que comptaient nos premiers pères et nos aïeux, Gucumatz et Zactecao. Ce furent leurs cadeaux et ce furent ainsi leurs paroles. Les 7 tribus furent les premières à arriver à Tula, d'après ce qu'on disait. Derrière elles, nous sommes arrivés nous, les guerriers portant nos tribus. Toutes les 7 tribus et les guerriers, nous sommes entrés quand s'ouvrirent les portes de Tula.
Les Otohil furent la première des sept tribus qui arrivèrent à Tula. Et quand furent arrivées les sept tribus, nous sommes arrivés, nous, les guerriers. Ainsi, disaient-ils. Et nous demandant d'arriver, nos mères et nos pères nous dirent, « Allez, mes filles, mes fils, je vous donnerai vos richesses, votre royaume. Je vous donnerai votre pouvoir et votre majesté, votre dossier et votre trône. » Et en forme de conclusion, je vais vous laisser lire les deux derniers poèmes que j'ai mentionnés à la page 271 et la page 272, qui concernent une littérature tout à fait nouvelle, puisqu'elle a été récupérée seulement en 1960. Cette littérature Maya Tzotzil, celle de ces habitants qui vivent dans l'état mexicain de Chiapas, c'est-à-dire dans ce Mexique méridional, c'est Maya Tzotzil qui occupe ce qu'on appelle les Altos de Chiapas, ces hauts plateaux qui se trouvent tout près de la frontière guatémaltèque. On a complètement oublié leur culture jusqu'à cette date toute récente, puisque c'est grâce à William Holland que, en 1960, grâce à la publication de son ouvrage sur la médecine et surtout la magie, la sorcellerie de cette région, on a pu ainsi récupérer quelques poèmes, ces textes, ces prières que je vous ai donc mentionnés dans le colloque. Je vous laisse lire cette action de grâce pour une chasse aux cerfs, ainsi que cette prière pour guérir l'épilepsie. Et je crois qu'ainsi on aura terminé ce tour d'horizon des littératures mayas, partie du Yucatan. Nous avons glissé ensuite du côté du Guatemala en découvrant ce Popol Vuh, cet ouvrage géant, cette Bible maya quiché. Ensuite, nous avons remonté les rives du lac Atitlan et enfin repris cette panaméricaine pour arriver du côté de San Cristobal de las Casas, en plein cœur de ces Chiapas, de ces territoires d'altitude, puisqu'on est toujours entre 2000 et 3000 mètres chez ces Maya Tzotzil, ceux de Tzinankantan, cette petite tribu qui a étudié Holland dans les années 60. L'origine des textes mayas est extrêmement diversifiée. Tout d'abord, il y a ces transcriptions de codex hiéroglyphiques qui ont été réalisées au moment de la conquête ou juste après la conquête espagnole auprès des scribes indigènes qui étaient plutôt préoccupés de mettre à l'abri leurs traditions, qui voulaient les conserver. Il y a aussi ces textes recueillis, ces récits qui ont été repris par les missionnaires qui sont venus là pour alphabétiser l'indigène et pour terminer, les documents qui proviennent surtout de la recherche ethnographique, de la recherche anthropologique moderne qui, elle, a été faite surtout dans les tribus les plus reculées des hauts plateaux mexicains ou guatémaltèques. Sur le plan géographique, on a affaire à quatre littératures bien différentes. On va les séparer ainsi. D'abord, la littérature maya yucatèque, celle du Yucatan, du Quintana Roo et même du Belize. En seconde position, on va s'intéresser à la littérature maya quiché des hauts plateaux guatémaltèques, tout ce qui se trouve aux alentours de Chichicastenango. Également au Guatemala, la littérature maya cachiquel, qui elle s'est diffusée autour du lac Atitlan. Et pour terminer, celle des maya tzotzil, qui eux vivaient plutôt sur les hauts plateaux des Chiapas, tout près de la frontière guatémaltèque du côté mexicain. D'abord, la littérature maya yucatèque. Tout d'abord aussi, les livres du Chilambalam, ceux qui ont été rédigés après la conquête espagnole, par des scribes, par des prêtres indigènes qui utilisaient déjà notre alphabet latin. Et au XVIe siècle, ils vont donc avoir la possibilité de transcrire ce qu'ils connaissaient de l'histoire du Yucatan. Ces manuscrits, ceux qui nous sont connus aujourd'hui, proviennent en fait de copies des tout premiers écrits, et ce sont des documents qui ne sont pas très anciens, puisque tous sont plus ou moins du XVIIIe siècle. Les livres du Chilambalam sont extrêmement divers. Tout d'abord, on peut distinguer des textes religieux, il y a aussi d'autres qui concernent uniquement l'histoire, ou alors l'astrologie, la médecine même. Ça, c'est tout à fait préhispanique. Mais on remarque aussi qu'il y a des passages qui s'intéressent plutôt à la religion chrétienne et même certaines formes d'astronomie européenne, reprise des premières connaissances espagnoles. Et pour terminer aussi, un apport assez curieux, une sorte de roman hispanique, les premiers romans espagnols qui ont été entendus, qui ont été lus par ces Indiens du Yucatan. Donc des origines diverses, une diversité énorme. Et surtout, alors, on va remarquer aussi que ces livres de Chilambalam proviennent de différentes villes du Yucatan. Chilambalam, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on pourrait déjà traduire ces deux termes. Chilam, c'est l'interprète, c'est celui qui parle, celui qui est vraiment la bouche, la parole. C'est un titre qui était porté par les prêtres mayas, qui étaient chargés de lire, d'analyser les dessins, le futur, et qui s'intéressaient aussi à l'histoire, bien sûr. Balam, c'est tout simplement le jaguar en langue maya. C'est aussi un nom de famille dans la région qui nous intéresse. Donc, on a affaire vraiment à des livres qui sont ceux de l'interprète Balam, ou je dirais mieux de l'interprète jaguar. Peu à peu, ces ouvrages vont voyager à travers le Yucatan. On va donc en faire des copies, comme je le disais, d'où cette diversité des livres de Chilambalam que l'on identifie en les désignant uniquement par le nom de leur village d'origine. Les trois plus importants, c'est celui de Chumayel, le Chilambalam de Tizimin et de Mani. Mais il y en a encore d'autres. Il y a ceux d'Ixchel, de Kawa, de Tecax, de Naha, de Tusik. Et malheureusement, ces derniers n'ont pas encore été traduits, même pas en espagnol, même pas en français, bien sûr, et surtout pas en anglais, puisque toutes les premières traductions ont été faites dans cette langue. Intéressons-nous donc à ceux qui sont les plus connus, je le répète, ceux de Chumayel, de Tizimin et de Mani. Tout d'abord, nous allons évoquer la symbolique, la magie, les problèmes mythologiques et l'apparition des Itzas. Vous allez visiter Chichen Itza, ou vous l'avez peut-être déjà fait, Chichen Itza, le puits des Itzas. Ainsi, il est bon de connaître un peu l'origine sous une forme un peu ésotérique de ces Itzas, ces nouveaux venus au Yucatan. Il a reposé sur sa pierre 13 fois 8000 catons de 20 ans. Alors a bougé la semence de Wanaxilaou. Voici le champ. Et les hommes sont-ils comme le soleil? De la pierre de celui qui est jaune. Et est-ce de là que sont les hommes bons? Mon vêtement, ma robe, ont dit les dieux.
Ainsi on le sait, n'importe qui le sait. À l'eau tendre des bords du puits, à la terre douce, ils sont venus, conquérants, faisant la guerre. À Tchétchène se trouvent les Itzas, les hérétiques. Ils étaient là le jour 1 et mix. Ils ont atteint le ciel. Le Seigneur est parti sur le puits du couchant. Les dieux étaient là. On a ainsi parlé le jour 1 et mix. À Tchétchène se trouvent les Itzas, les hérétiques. Ils étaient là, cachés, cachés. On criait ainsi, cachés, cachés. L'esprit des morts le sait. Quand ils sont arrivés, l'esprit des morts, en ce jour resplendissant, a eu des difficultés à crier. Ils étaient là. Quelqu'un par hasard est-il éveillé? Trois fois dans le jour resplendissant, dans le jour des dieux, ils étaient là, on cria. Ils vont peupler, ils vont résider, on entendait cela. Mais il ne s'agissait pas de l'arrivée des Itzas à Tchétchène. Ils y étaient déjà, les hérétiques, oui, ils y étaient déjà. Ils ont gémi trois fois ce jour-là. L'esprit de l'homme dit, sommes-nous quelqu'un? Sommes-nous quelqu'un? Telle est la parole de l'esprit de l'homme. Devine-le, savant. J'ai été engendré dans l'obscurité. J'y suis né. Ou alors ceci n'est-il pas vrai non plus? J'ai été engendré par Mistit Aou. Et même la faim a été brisée. Et j'affligeais quelqu'un avec ma chanson? Ils étaient là. Je suis mort, a dit le prêtre du peuple. Je suis caché, a dit celui qui perd le peuple. Ainsi l'a cru son esprit, ainsi a fait son cœur. Le savant, celui qui perd le peuple, s'afflige avec ma chanson. Ils étaient là. Ce chant, tout ce chant, est en juste louange du Seigneur Dieu.
Nous allons maintenant nous intéresser à celle des Tzoules, c'est-à-dire des Espagnols, car ces textes de Chilambalam s'intéressent également aux prédictions qui correspondaient à la future arrivée des Espagnols. Ces Espagnols qui étaient peut-être déjà connus, puisqu'il y avait eu des naufrages en 1511, puisqu'on avait vu Cortés arriver en 1519, Grijalva en 1518, qu'on savait déjà qu'il y avait eu des trafics à l'intérieur des Caraïbes et des Antilles. Enfin, ces présages, ces prophéties vont être transmises par ces livres de Chilambalam.
Le 11 août, le premier du conte de la Catoune initiale. Ishkansiou, visage de la naissance du ciel, a été le siège du Catoune où sont arrivés les étrangers aux barbes rouges, les fils du soleil, les hommes de couleur claire. Aïe, affligeons-nous parce qu'ils sont arrivés.
Aïe, affligeons-nous parce qu'ils sont arrivés, vos dieux ne serviront plus jamais.
surprenant, ce même ouvrage de Tchoumayel, on peut lire également un texte sur la destruction du monde maya. Voici ce que j'écris. En 1541 eut lieu la première arrivée des Tzoulès, des étrangers du côté de l'Orient. Ils arrivèrent à Ekab, tel est son nom. Et ils arrivèrent à la porte de l'eau à Ekab, au village de Nakombalam, au début des jours des années du Katoun 11 Aou. 15 vingtaines d'années avant l'arrivée des Tzoulès, les Itsas se dispersèrent. On abandonna le village de Saklantoun, on abandonna le village de Kinchilkoba, on abandonna Tchétchenitsa, on abandonna Ouchmal et au sud d'Ouchmal, on abandonna Kaba, car tel est son nom. On abandonna Zeye et Pakam et Omtoun, le village de Tsikalomkin et Ake, celui qui a des portes de pierre. On abandonna le village où descend la pluie, et Tsemal, là où descendit le fils du Tout-Dieu, le Seigneur du ciel, le Seigneur d'âme, celui qui est vierge miraculeuse. Et le Seigneur dit, descendez les boucliers Chimaï de Kinikshkakmu. On ne peut plus régner ici, mais il reste le miraculeux, le miséricordieux. Que descendent les cordes, que descendent les rubans tombés du ciel, que descende la parole tombée du ciel. Et ainsi les autres villages firent révérence de leur seigneurie. Ainsi on a dit que ne servaient plus les seigneurs Dieu de Emal. Et alors partirent les grands Itsas. 13 fois, 400 fois, 400 milliers et 15 fois, 400 fois, 400 centaines ont vécu hérétiques les Itsas. Mais ils sont partis, et avec leurs disciples qui les nourrissaient et qui étaient très nombreux. 13 mesures a été Iximal, et en tête du compte ce d'Iximal, il y a eu 9 mesures et 3 ok. Et les enfants du peuple partirent avec leur Dieu par devant et par derrière. Leur esprit n'a point voulu des Tsoul, ni de leur christianisme. Ne leur ont donné aucun tribut, ni l'esprit des oiseaux, ni celui des pierres précieuses, ni celui des pierres ouvragées, ni celui des tigres qui les protégeaient. 1600 ans et 300 ans et leur vie s'achèverait. Ils savaient compter le temps, même en eux-mêmes. La lune, le vent, l'année, le jour, tout chemine, mais tout passe aussi. Tout sang arrive au lieu de son repos, comme tout pouvoir arrive à son trône. Le temps était mesuré, où l'on ferait louange de la grandeur des trois. Le temps était mesuré pour la bonté du soleil, pour la jalousie que forment les étoiles, d'où les dieux nous contemplent, les bons seigneurs des étoiles, tous bons. Ils avaient la sagesse, la sainteté, il n'y avait aucune méchanceté en eux. Il y avait la santé, la dévotion. Il n'y avait pas de maladie, de douleur de sature, de fièvre ou de vérole, ni de douleur de poitrine ou de ventre. Ils marchaient le corps droit, mais sont venus les Tseuls, et ils ont tout défait. Ils ont enseigné la crainte, ils ont flétri les fleurs, ils ont sucé jusqu'à la tuer la fleur des autres pour faire vivre la leur. Ils ont tué la fleur du Nachitchuchitl. Il n'y avait plus de prêtre pour nous instruire, et ainsi est venu le deuxième temps. Il a commencé de régner, et il fut la cause de notre mort. Sans prêtre, sans sagesse, sans courage et sans honte, tous égaux. Il n'y avait pas de grande sagesse, ni de parole ou d'enseignement des seigneurs. Les dieux qui sont arrivés ici ne servaient à rien. Les Tseuls n'étaient venus que pour châtrer le soleil, et les enfants de leurs enfants sont restés parmi nous qui n'avons reçu que leur amertume. Maintenant, on va passer à un chapitre tout à fait différent du Chilambalam. C'est celui consacré aux énigmes. Des énigmes qui sont présentées carrément à la façon de nos charades, ou de devinettes même, qui étaient en fait des énigmes qui avaient souvent un côté très obscur, vous allez le voir, mais qui étaient en rapport avec la religion, une signification religieuse très précise. D'autres, alors, beaucoup plus plaisantes, sont vraiment arrangées dans ce genre littéraire très apprécié des Mayas, celui de la plaisanterie, ce genre très à l'honneur, encore aujourd'hui chez les Yucatèques, qui adorent s'amuser de cette façon en jouant la devinette, en faisant quelques plaisanteries. Amenez le soleil, mes enfants, et qu'il soit étendu sur mon plat, que la lance du ciel y soit clouée au milieu de son cœur.
Sur le soleil doit être assis le grand tigre en buvant son sang. En langage figuré, on doit comprendre le soleil, le fruit sacré. Voici la lance et la croix du ciel enfoncées dans son cœur, ce que nous appelons la bénédiction. Voici le tigre vert tapis dessus et buvant son sang, le piment vert, fort comme le tigre. Ceci est en langage figuré. Mon fils, porte-moi les vers luisants de la nuit, ceux qui du nord au couchant font passer leur odeur. Avec eux doivent venir les coups de lance du tigre, ainsi soit-il, père. Ce qu'il demande, ce sont les cigares. Le coup de langue du tigre, c'est le feu. Mon fils, apporte-moi une jeune fille très jolie, au visage très blanc, je la désire beaucoup. Ici, devant moi, j'arracherai sa jupe et ses vêtements. Ainsi soit-il, père. Ce qu'il demande, c'est une dinde pour la manger. Arracher sa jupe et ses vêtements, c'est la plumer lorsqu'on la demande pour la manger. Mon fils, apporte-moi une vieille gardienne de champ, noire sur tout son corps, dont le postérieur soit de 7 palmes. J'ai désir de la voir. Ce qu'il demande, c'est le grand fruit de la calebasse. Nous allons maintenant nous intéresser à la littérature maya quiché, nous allons passer au Guatemala. C'est une littérature qui au départ paraît moins riche, moins prestigieuse que celle que nous venons d'étudier, et pourtant ces maya quiché ont légué au monde le plus grand texte de la littérature précolombienne, le Popol Vuh. Et puis également des pièces de théâtre assez extraordinaires, spécialement celle du Rabinalachi. Alors, où se trouve cette région guatémaltèque? Je vous l'ai dit, dans la zone Quiché, autour de Chichicastenango, près de Totonicapan, près de Quetzaltenango, près de Motagua, tout près des rios Xicxoy. Enfin, c'est une zone très étendue. Le mot Quiché veut dire la forêt, ce qui est planté en arbres. Et c'est là qu'au moment de la conquête, peut-être plus qu'ailleurs, on a voulu préserver les traditions, la mythologie, les scribes, les prêtres de ces différentes tribus ont désiré survivre culturellement à la tuerie qui allait être organisée spécifiquement à Utatlan, leur capitale, qui a été prise en 1524 par le conquérant espagnol, dont on a déjà un peu parlé à propos de Cortés, son compagnon Pedro de Alvarado. Alors là, c'est un peu comme ailleurs, on va transcrire en alphabet latin l'essentiel de cet geste national de ce Popol Vuh. Il ne faut pas oublier que le Popol Vuh a été écrit de manière anonyme, mais qu'il reprend tous les mythes, toute l'histoire du peuple maya quiché. Et comment est-ce qu'on a réussi à écrire ce livre? Eh bien, c'est en reprenant différents documents hiéroglyphiques qui étaient connus sous le nom général de Popol Vuh, déjà certainement, mais en tout cas, on a une référence à un écrit de Tula, donc on a affaire à quelque chose de maya toltec, c'est-à-dire quelque chose qui remonte au 11e ou au 12e siècle de notre ère. On a certainement aussi des traditions orales qui ont été transcrites. On a encore d'autres écrits hiéroglyphiques qui seraient même antérieurs, peut-être qui remontent à l'époque classique, entre 700, 800, 900 de notre ère. En tout cas, ce Popol Vuh va être transcrit entre 1550 et 1555 par ces scribes quiché qui avaient été alphabétisés par les premiers missionnaires catholiques. Je vais vous parler un peu de l'histoire de ce document parce qu'il est resté 2 siècles aux mains des Indiens, à l'abri de toutes les curiosités, et il ne va être découvert qu'au XVIIIe siècle à Chichicastenango, dans une niche du cloître de Chichicastenango, par un religieux dominicain qui se nomme Francisco Jiménez. Il avait su gagner la confiance des Indiens, il avait su les convaincre de lui confier ce livre sacré, et Jiménez va transcrire le texte maya quiché du document, il va ensuite procéder à sa traduction en espagnol. Et c'est au XIXe siècle, en 1861, que le français Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, qui était curé à Rabinal au Guatemala, entre 1855 et 1856, va procéder à sa publication. Il va publier cet ouvrage à Paris, sa première édition, qui va paraître sous le titre de Popol Vuh, le livre sacré et les mythes de l'Antiquité américaine. Il avait naturellement utilisé les manuscrits de Jiménez. Et à partir de cette première édition, on peut dire que le Popol Vuh va commencer de faire partie de la littérature universelle. À la page 265 de votre colloque, je vous ai placé les premières paroles du Popol Vuh en maya quiché. À la page 266, la page voisine, vous avez la traduction en français de ces premiers vers du Popol Vuh. Je vous ai placé aussi à la page 269 une autre traduction de cette genèse maya quiché, plus exactement du début de cette genèse. Je vais vous la lire maintenant, ce sera une lecture un peu plus prolongée que celle que vous avez dans le colloque. Voici le récit de comment tout était en suspens, tout calme, tout immobile, tout paisible, tout silencieux, tout vide au ciel sur la terre. Voici la première histoire, la première description. Il n'y avait pas un homme, un animal, oiseau, poisson, écrevisse, bois, pierre, caverne, ravin, herbe, forêt. Seul le ciel était. La face de la terre n'apparaissait pas. Seule était la mer limitée, tout l'espace du ciel. Il n'y avait rien d'assemblé, de joint. Tout était invisible, tout était immobile dans le ciel. Il n'existait rien d'édifié, seulement l'eau limitée, seulement la mer calme, seule, limitée. Il n'existait rien, seulement l'immobilité, le silence dans les ténèbres, dans la nuit. Seuls les constructeurs, les formateurs, les dominateurs, les puissants du ciel, les enfanteurs, les engendreurs étaient sur l'eau, lumière épandue. Leur symbole était enveloppé dans les plumes vertes. Leur nom était donc serpent emplumé. Ce sont de grands sages. Ainsi est le ciel, sont aussi les esprits du ciel. Tels sont, dit-on, les noms des dieux. Alors vint la parole. Elle vint ici des dominateurs, des puissants du ciel, dans les ténèbres, dans la nuit. Elle fut dite par les dominateurs, les puissants du ciel, ils parlèrent. Alors ils tinrent conseil, alors ils pensèrent, ils se comprirent, ils unirent leurs paroles, leur sagesse. Alors ils se montrèrent, ils méditèrent. Au moment de l'aube, ils décidèrent de construire l'homme. Tandis qu'ils tenaient conseil sur la production, l'existence des arbres, des lianes, la production de la vie, de l'existence dans les ténèbres, dans la nuit, par les esprits du ciel nommés maîtres géants. Maître géant éclair est le premier, trace de l'éclair est le second, splendeur de l'éclair est le troisième. Ces trois sont les esprits du ciel. Alors vinrent avec eux les dominateurs, les puissants du ciel. Alors ils tinrent conseil sur l'aube de la vie, comment se ferait la germination, comment se ferait l'aube, qui soutiendrait, nourrirait. Que ce soit ceci, fécondez-vous, que cette eau parte, se vide, que la terre naisse, se raffermisse, dirent-ils. Que la germination se fasse, que l'aube soit au ciel, sur la terre, car ni adoration, ni manifestation par nos construits, nos formés, jusqu'à ce que naisse l'homme construit, l'homme formé. Ainsi ils parlèrent, ce par quoi naquit la terre. Telle fut en vérité la naissance de la terre existante. Terre, dirent-ils, et aussitôt elle naquit. Seulement un brouillard, seulement un nuage, la naissance de la matière. Alors sortirent de l'eau les montagnes, de suite sortirent les grandes montagnes. Seulement par science magique, par pouvoir magique, fut fait ce qui avait été décidé concernant les monts, les plaines, aussitôt naquirent simultanément à la surface de la terre les cyprières, les pinèdes. Et les puissants du ciel se réjouirent ainsi. Soyez les bienvenus, ô esprit du ciel, ô maître géant éclair, aux traces de l'éclair, aux splendeurs de l'éclair. Que s'achève notre construction, notre formation, fut-il répondu. D'abord naquirent la terre, les monts, les plaines, se mirent en chemin les eaux, les ruisseaux cheminèrent entre les monts, ainsi eut lieu la mise en route des eaux lorsque parurent les grandes montagnes, ainsi fut la naissance de la terre lorsqu'elle naquit par l'ordre des esprits du ciel, des esprits de la terre, car ainsi s'appellent ceux que les premiers fécondèrent. Le ciel était en suspens, la terre était en suspens dans l'eau.
Ainsi elle fut fécondée lorsqu'ils la fécondèrent. Alors son achèvement, sa composition furent médités par eux. Ensuite, ils fécondèrent les animaux des montagnes, gardiens de toutes les forêts, les êtres des montagnes, cerfs, oiseaux, cougars, jaguars, serpents, vipères, cantis, gardiens des lianes. Alors les enfanteurs, les engendreurs dirent, n'y aura-t-il que le silence, l'immobilité au pied des arbres, des lianes?
Il est donc bon qu'il y ait des gardiens. Ainsi dirent-ils en fécondant, en parlant. Ainsi naquirent les cerfs, les oiseaux. Alors ils donnèrent leur demeure aux cerfs, aux oiseaux. Toi, cerf, sur le chemin des ruisseaux, dans les ravins tu dormiras. Ici tu vivras dans les herbes, dans les broussailles, dans les forêts tu féconderas. Sur quatre pieds tu iras, tu vivras. Il fut fait comme il fut dit. Alors furent aussi données les demeures des petits oiseaux, des grands oiseaux. Oiseaux, vous nicherez sur les arbres, sur les lianes vous y demeurerez. Vous engendrerez, vous vous multiplierez sur les rameaux des arbres, sur les rameaux des lianes. Ainsi, il fut dit aux cerfs, aux oiseaux, pour qu'ils fissent ce qu'ils devaient faire. Tous prirent leur dortoir, leur demeure. Ainsi, les enfanteurs, les engendreurs donnèrent leur maison aux animaux de la terre. Étant donc tous terminés, cerfs, oiseaux, il leur fut dit aux cerfs, aux oiseaux, par les constructeurs, les formateurs, les enfanteurs, les engendreurs, « Parlez, criez, vous pouvez gazouiller, criez, que chacun fasse ouïr son langage, selon son clan, selon sa manière. » Ainsi fut-il dit aux cerfs, oiseaux, cougars, jaguars, serpents, « Désormais, dites nos noms, louangez-nous, nous vos pères, nous vos mères. » Désormais appelé maître géant éclair, trace de l'éclair, splendeur de l'éclair, esprit du ciel, esprit de la terre, constructeur, formateur, enfanteur, engendreur, parlez, invoquez, adorez-nous, leur dit-on. Mais ils ne purent parler en homme, seulement ils caquetèrent, seulement ils mugirent, seulement ils croissèrent, il ne se manifesta pas de forme de langage, chacun parlant différemment. Lorsque les constructeurs, les formateurs entendirent leurs paroles impuissantes, ils s'entredirent. Ils n'ont pu dire nos noms, à nous, les constructeurs, les formateurs. Pas bon, se répondirent les uns aux autres, les enfanteurs, les engendreurs, et ils dirent, voici que vous serez changés, car vous n'avez pu parler. Nous changerons notre décision. Votre nourriture, votre alimentation, vos dortoirs, vos demeures, vous les aurez. Ce seront les ravins, les forêts. Notre adoration est imparfaite. Si vous ne nous invoquez pas, pourra-t-il y avoir adoration, obéissance dans ce que nous ferons? Vous recevrez votre fardeau, votre chair sera broyée sous la dent. Qu'il en soit ainsi, que tel soit votre fardeau. Ainsi, il leur fut alors dit, ordonné aux petits animaux, aux grands animaux de la surface de la terre, mais ceux-ci voulurent essayer leur chance, voulurent tenter l'épreuve, voulurent tenter l'adoration, mais n'entendant point le langage les uns des autres, ils ne se comprirent pas, ils ne purent rien faire. Tel fut donc le fardeau de leur chair. Ainsi, le fardeau d'être mangé, d'être tué, fut ici sur tous les animaux de la surface de la terre. Ensuite, furent essayés des êtres construits, des êtres formés par les constructeurs, les formateurs, les enfanteurs, les engendreurs. Qu'on essaye encore. Déjà approche la germination, l'aube. Faisons nos soutiens, nos nourriciers. Comment être invoqués, commémorés à la surface de la terre? Nous avons déjà essayé avec notre première construction, notre formation, sans que par elle puisse être notre adoration, notre manifestation. Essayons donc de faire d'obéissants, de respectueux soutiens, nourriciers, dirent-ils. Alors fut la construction, la formation.